La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. Avec aujourd'hui trois invités. Comme d'habitude, je suis très heureux d'accueillir Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du Rassemblement démocratique et social européen. Elle est entourée de Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, et de Gabriel Robin, essayiste, contributeur des sites Causeur et Atlantico, directeur de l'agence Monceau. Bienvenue également à vous trois et merci d'être au rendez-vous de la mêlée pour revenir d'abord sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, où le chef de l'État est arrivé ce jeudi matin après une semaine de violence dans l'archipel faisant suite au vote de la réforme constitutionnelle que nous avons évoqué la semaine dernière dans cette émission. Le président de la République a donc décidé de se rendre lui-même sur place pour y faire diverses annonces et y installer une mission. Il a rencontré en fin de matinée toutes les composantes des partis indépendantistes néo-calédoniens. Il a qualifié la situation de mouvement d'insurrection absolument inédit et il a affirmé que le retour à la paix, au calme et à la sécurité était une priorité absolue. Alors que les émeutes ont toujours lieu, Emmanuel Macron a indiqué que l'état d'urgence était donc maintenu dans l'immédiat. Concernant l'installation de cette fameuse mission, alors au moment où je vous parle, on n'en sait pas plus sur ses objectifs précis ni sur sa composition. Est-ce que vous pensez que le président a eu raison de se rendre personnellement en Nouvelle-Calédonie, compte tenu des événements et de la crise actuelle? Et qu'attendez-vous de son déplacement et des annonces qu'il va y faire? Et je vais donner la parole tout de suite à Françoise Laborde.
Merci Eric, bonsoir à tous. Voilà, pourquoi le président de la République ? Je pense qu'il s'est dit que peut-être il pouvait éteindre certains feux par sa présence, puisque si on fait quelques radios trottoirs, on voit quand même que là-bas, certaines personnes, que ce soit des élus, des citoyens, des représentants des différents partis indépendantistes, je ne sais pas s'ils sont vraiment des partis, mais enfin voilà... On dit que c'était quand même une reconnaissance, une estime de cette lointaine contrée et que le président fasse un effort d'y aller, c'était plutôt a priori positif. Bon, c'est peut-être aussi désavouer un peu son premier ministre et sa ministre des Armées, mais ça, je le laisse.
On reviendra sur cette
voilà.
question.
Donc ça, pour moi, c'est la première remarque. Ensuite, installer une mission, ben, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, puisque bon, ben, depuis que vous nous avez invités, on a vu qu'il y avait quelques petites avancées. Donc, comme vous disiez, la rencontre avec les différents...
Alors, il les a tous rencontrés voilà, séparément, mais pas ensemble. Mais il n'a pas réussi voilà. à les réunir autour d'une table.
Donc, il dit qu'il fera un point, d'environ un point. Alors, ce ne sera peut-être pas lui quand même qui va y retourner dans un mois. Que, bien sûr, il ne veut pas passer en force et faire une réforme constitutionnelle plus large que le corps électoral. Donc, ça, c'est à suivre. La fin de l'état de l'urgence, évidemment, il la conditionne à la levée des barrages, donc à suivre. Et donc, le Congrès ne sera pas convoqué fin juin, a priori, parce qu'il faudrait quand même mettre les bouchées doubles. Donc, ce que l'on peut voir aussi, c'est l'aide d'urgence promise. Mais les dégâts sont tellement énormes que moi, personnellement, là, je ne ferai pas de commentaire. Je dis joker. C'est quand on voit l'état des routes, l'état... c'est quand même terrible. Et qu'on soit de droite, de gauche, du centre, ça me laisse sans voix. Et c'est une région, puisque ce n'est pas un pays. C'est notre France, qui est à l'autre bout du monde. Ça va quand même poser des problèmes, je pense, aux citoyens lambda, qui est sur la métropole, et qui va se dire... Eh bien, les millions partent là-bas. Ils auraient pu partir là-bas, mais pour faire autre chose.
Oui.
Là, je trouve que c'est un peu excessif. Donc, notre cher président, je lui laisse le bénéfice du doute d'une valeur ajoutée. Hein, Mitterrand y était bien allé, pourquoi
oui,
pas lui
oui.
Mais le miracle...
À l'époque aussi, avait suscité voilà. des commentaires. D'ailleurs.
Mais le miracle, j'ai un peu de mal à y croire.
Bon. Gabriel Robin, vous connaissez bien la situation en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. Vous avez vraiment étudié ce qui se passe là-bas depuis des années. Quelle est votre vision, d'abord, concernant le déplacement d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il fallait qu'il y aille lui-même?
Alors, moi, je dirais que oui. parce que les dégâts, comme l'a dit Madame Laborde, sont vraiment très très importants. Donc la situation est insurrectionnelle, elle n'est pas proche de l'insurrection, elle est insurrectionnelle. Donc il fallait que le président en personne se déplace. Ce qui fait presque peur, c'est qu'on ait un déplacement à l'étranger, quoi.
Oui.
Plus qu'un déplacement en France. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que c'est commenté, parce que... Bon. Moi, je pense que, paradoxalement, les indépendantistes ne sont pas du tout en position de force, même s'ils ont exprimé une frustration très forte. Ils ne sont pas en position de force parce qu'on leur a beaucoup cédé, en réalité, depuis les années 80. Notamment un principe qui n'existe pas dans le reste de la France, qui est quand même que les habitants de Nouvelle-Calédonie ont une citoyenneté spécifique néo-calédonienne qui s'ajoute à la citoyenneté française. Et dans le préambule des accords de Nouméa, vous avez les deux premiers titres sont consacrés justement à l'identité spécifique des habitants de Nouvelle-Calédonie. Le premier tiré du préambule est consacré au peuple premier Kanak, et le second est consacré au Caldoche, en définissant précisément les apports respectifs de chacun et l'identité de ce peuple premier. La frustration kanak, elle doit venir aussi en partie du fait que le mode de vie et l'identité et l'anthropologie coutumière qui est la leur est difficile à maintenir dans le temps, en fait. Et ça, c'est de leur ressort. C'est pas la France qui peut les aider à protéger. On peut pas, en tout cas, nous, on ne fait rien pour les empêcher de le préserver, mais on ne peut pas, si vous voulez, le faire à leur place. Ça, c'est à eux de le transmettre. Ça fait depuis 1844 que la France a posé le pied en Nouvelle-Calédonie. Il y avait eu l'accord avec, on avait signé en fait un traité avec le grand chef dont j'ai oublié le nom, Toupéa. Bon, je pense que je me trompe, mais enfin. Donc Macron devait y aller. La France n'a pas bougé. Alors, il y a eu 3 référendums. Il y a eu les accords de Nouméa. On n'a pas à bouger, on n'a pas à céder face au CCAT, qui d'ailleurs est en train d'affaiblir le FLNK, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Et on voit bien d'ailleurs dans le nom de ce groupe qu'il y a une inspiration marxiste, révolutionnaire, un petit peu, alors le terme va peut-être faire bondir, mais tiers-mondiste. Il y a cette influence-là qui est derrière. Et la Nouvelle-Calédonie a été pionnière, mais aujourd'hui elle est rejointe par de nombreux mouvements dans les territoires d'outre-mer français, mais aussi dans d'anciennes colonies où la France est de plus en plus en difficulté, c'est-à-dire notamment dans le Sahel, où on a été chassé, au Sénégal, où récemment il y a eu l'élection d'un président aussi qui est un petit peu dans ces idées-là, qui a fait venir Mélenchon récemment. Bon. C'est un petit peu plus ambigu au Sénégal, hein, parce que là, c'est plus un discours populiste à destination de sa population. En fait, le lien avec la France n'est pas du tout rompu, concrètement. Donc, tout ça s'ajoute, et vous avez aussi derrière, et c'est pour ça que je pense que Macron s'est déplacé, tout de même, même s'il y a la plupart des raisons sont endogènes, des ingérences étrangères qui ont été attestées, qui sont prouvées depuis plusieurs années, venu d'Azerbaïdjan, là, cette fois-ci, beaucoup, avec une forme de trolling international.
Ça, je pense que c'est lié aussi à la position de la France vis-à-vis du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Hein.
Venu,
même si on a soutenu timidement l'Arménie, on l'a fait quand même.
Bon. Venu de Russie aussi, il y a eu des hackings. Russes, c'est pas faux de le dire. Hein. C'est une réalité.
Existe.
Et en fait, ils utilisent tout ça, comme ils l'ont fait aussi aux Comores, avec Mayotte. Et récemment, il y a eu plusieurs signaux faibles. Par exemple, puisque moi je suis un petit peu ce qui se passe en Allemagne, il y a une question qui a été déposée par un élu de l'AFD sur la Nouvelle-Calédonie et sur Mayotte, en faisant un parallèle avec la Crimée, et en demandant pourquoi la France avait une politique néocoloniale, etc., dans ces deux endroits. Et en cherchant un petit peu, je me suis aperçu que c'était pas le député AFD qui avait déposé cette question écrite.
AFD, extrême droite allemande, on va dire,
voilà,
pour faire court.
Mais c'était son attaché parlementaire, qui était un Russe naturalisé allemand. Oui. Enfin, à chaque fois qu'on gratte, il y a quand même des trucs assez suspects, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres.
Voilà, alors après ces deux premières interventions, Françoise Dabord et Gabriel Robin, Thibaut Casal, est-ce que vous vous retrouvez dans certaines choses qui ont été dites et est-ce que vous voulez apporter peut-être des nuances ou des précisions?
Alors certes, je me retrouve dans certaines choses qui ont été dites, mais oui, je vais aussi apporter des nuances sur certaines choses aussi qui ont été dites. Tout d'abord, est-ce que Emmanuel Macron a bien fait de se rendre en Nouvelle-Calédonie? Vu la situation actuelle, oui. Mais il faut se poser la question de aussi pourquoi aujourd'hui il est obligé d'y aller lui personnellement. Et pourquoi c'est important que lui, il y aille personnellement. Quand vous avez dit que la France n'a pas bougé, ce qui a amené aussi à ces débordements, c'est parce que justement, la France a bougé. Avec le président de la République et sa réforme constitutionnelle. Mais, et cette réforme constitutionnelle, avec cette réforme constitutionnelle, ça a changé. Oui, mais ça a changé, justement, du coup, le principe où, depuis Michel Rocard, il y a quand même deux conditions pour qu'il y ait un retour au calme. C'est un, l'impartialité de l'État dans un processus officiel de décolonisation. Impartialité et compromis, quelle que soit la durée des négociations. Ça a permis la paix pendant 35 ans. Et quand, durant le Covid, le président de la République décide seul de maintenir ce vote, il brise cette impartialité de l'État, qui est une condition majeure rappelée aussi par Édouard Philippe, qui était son Premier ministre, ou par d'autres premiers ministres, comme anciens premiers ministres, comme Jean-Marc Ayrault, etc. Donc il a continué, en faisant ça, à dégrader le lien entre les Kanaks et la République. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, non seulement en plus des appels à la paix, parce que je pense qu'on est tous d'accord ici, tout le monde aussi est d'accord en Nouvelle-Calédonie, parce que tous les partis politiques ont appelé à la fin des violences, il faut un appel à la paix. Mais il faut aussi que le président de la République, maintenant, pour moi, il doit faire face à son erreur, et il doit retirer sa réforme constitutionnelle. Il a mis le feu aux poudres, il faut suspendre cette réforme pour négocier dans un climat apaisé. Alors, il a dit, je viens de recevoir encore une alerte pour dire qu'il ne fera pas de passage en force. Mais à ce moment-là, ça a été vécu par ces populations comme un passage en force. Donc, il faut aussi bien avoir cela à l'esprit. Et s'il n'y avait pas eu toute cette succession d'événements, eh ben, le président de la République n'aurait pas été obligé de se rendre en Nouvelle-Calédonie, et peut-être que ça aurait été le Premier ministre qui s'en serait chargé, ou ministre d'Outre-mer, je ne sais pas. Mais en tout cas, le président de la République n'aurait sûrement pas eu besoin de se déplacer là-bas.
Françoise Dabord, par rapport à ce que vient de dire Thibaut Casal, comment vous réagissez? Vous avez des points d'accord avec lui là-dessus?
Alors, oui, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ont traîné. Enfin, voilà, et s'il n'y avait pas eu cette forme d'insurrection, le président ne se serait pas déplacé. Donc, voilà. C'est sûr que ça fait avancer à un moment les choses, même si c'est au prix de... En revanche... Je pense que depuis des années et les différents référendums, il y a eu en effet une feuille de route où il devait y avoir des choses qui devaient s'imbriquer, justement entre le territoire lointain qui avait été colonisé et qui devenait néocolonial et petit à petit à part égale. Mais c'est vrai qu'il est compliqué de gérer un statut particulier entre... les référendums où on voit qu'il faut faire une grande différence entre l'indépendance et l'autonomie. Où on voit que finalement ils ont une forme de double nationalité, puisqu'ils ont cette... Et oui, donc c'est
qui
vrai.
Qui reconnaît leur nationalité.
Voilà. Donc unique, nationalité française, mais citoyenneté mixte, donc qui est unique aussi.
Et qui ne concerne d'ailleurs pas que les Kanaks, hein, cette citoyenneté.
Oui, c'est
les Caldoches. Voilà. On appelle les Caldoches.
Et donc, c'est vrai que je pense qu'à ce niveau-là, c'est très compliqué. Et la Constitution et le corps électoral, c'est pareil sur un territoire français. Il paraît difficile de ne pas donner la possibilité à certaines personnes de voter. Nous, sur notre territoire métropolitain, on laisse quand même voter un certain nombre de personnes.
Donc, oui. Celle-là, il y a eu quand même une schizophrénie dans les commentaires de la gauche, qui était un problème.
Droit du sang,
voilà. Donc là, on se retrouve avec des personnes, comme vous disiez, Eric, nées là-bas, qui finalement n'ont peut-être pas encore le droit de voter.
Ah ben beaucoup.
Mais qui ne l'ont pas.
Donc, voilà, moi je connais.
Personnes.
Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, c'est pour ça que je.
En plus, on aurait tort de résumer ça à Européens et Kanaks.
Voilà.
Parce que il y a des Européens. De Nouvelle-Calédonie représente environ 24% de la population.
Oui.
Les Kanaks, c'est à peu près le même
taux. Oui, c'est un quart.
Voilà. Voilà. Les deux, ça, mais tout le reste, c'est du polynésien. C'est voilà. Oui, ce sont des, y a beaucoup d'Asiatiques, un petit peu comme il y a à Tahiti.
Oui, exact.
Qui, eux, sont plutôt côté caldoche, en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire que, bon, c'est là où il y a complexité. En plus de ça, la culture Kanak, pour ceux qui la connaissent, qui est mélanésienne, bon, c'est une culture... il faut savoir qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, il y a eu beaucoup aussi, justement, d'expéditions militaires venus du Tonga, des Samoa, etc. Donc en fait, c'est assez compliqué aussi les relations océaniennes.
Il y a des antagonismes anciens et
voilà.
auxquels l'Europe n'est pas forcément concernée.
Il n'y a pas eu de créolisation en Nouvelle-Calédonie aussi, contrairement à d'autres îles ou d'autres endroits où il y a eu une colonisation française. Là, si vous voulez, la culture Kanak est très endogame. Donc en fait, il n'y a pas trop de métissage, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de caldoches qui ont du sang Kanak, et il y a beaucoup de Kanak qui ont du sang européen aujourd'hui, hein, si on est parfaitement honnête. Mais en réalité, il n'y a pas de culture...
C'est culturellement, vous voulez dire, il n'y a pas de mélange.
Non, il n'y a pas de mélange, et les caldoches qui pourraient faire le lien entre ce qu'on appelle la Kanaki, c'est-à-dire leur nation première, et l'État français, ils n'en sont pas trop capables, et non. En fait, ils sont très antagonistes aussi avec eux. Donc la difficulté est très grande. En plus de ça, les atouts qu'ils pourraient développer, ils sont entravés. C'est-à-dire que le tourisme, la Nouvelle-Calédonie, ça fait un peu peur. Il y a beaucoup de plages qui ne sont pas accessibles, justement, du fait de cette Kanaki. Donc les touristes, ils sont réservés sur 3 plages, en fait, et tout le reste, ils ne peuvent pas y aller. Donc ça, c'est pourtant, ces îles du Pacifique peuvent se développer comme ça. Les États-Unis, avec Hawaï, c'est ce qu'ils avaient fait. On ne le fait pas, alors que la Nouvelle-Calédonie, ça pourrait avoir un potentiel
C'est magnifique,
avoyant. C'est moins développé aussi que la Polynésie française au niveau touristique. Tahiti, il y a des Australiens, des Américains, des Japonais qui y vont beaucoup. Bon, il y a quelques Français, mais pour nous, c'est beaucoup plus cher
que
loin. Là-bas. mais la Nouvelle-Calédonie, c'est pas très fréquenté. Si vous allez voir, même pour enseigner, il n'y a qu'un hôtel. Qu'un hôtel en Nouvelle-Calédonie.
Ils n'y vont que s'ils ont la famille, leur enfant chéri qui s'est installé là-bas.
Pour des missions, pour des...
Ou une mission.
Ah oui.
Donc, il y a une criminalité qui est très forte. Les prisons de Nouméa, il y a ça aussi. Parce que ça a beaucoup joué dans l'affaire de la constitution des comités d'action. Les prisons sont surpeuplées à Nouméa. Il y a un problème... ça a été reproché à Darmanin de le dire, mais c'est la vérité. Il y a un problème d'alcoolisme qui est énorme et de drogue qui est vraiment considérable.
Et en général, Darmanin, qui est parti avec Emmanuel Macron,
parce que c'est un fait malgré tout.
Ça lui a été reproché parce que c'était peut-être pas aussi chose à dire au moment précis où il le dit.
C'est peut-être pas élégant, mais c'est vrai.
Oui, après, le problème, c'est que quand on est ministre de l'Intérieur, le but n'est pas forcément de jeter
un
sur le feu.
Oui, mais à un moment, il faut arrêter. Enfin, voilà, moi, alors vous avez des idées peut-être assez tranchées, donc je récupère mon centre. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut dire les choses. Alors, c'était peut-être
pas
un
reproche, bon
moment.
Moi, que je leur fais.
Le problème, c'est le moment où on le dit.
Voilà. Parce qu'on parlait tout à l'heure un peu en
et parmi les
quand on est quand on est ministre, on doit avoir un minimum, un minimum de diplomatie et ce genre de choses, et savoir ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire.
Alors, moi, je pense qu'il a eu raison, parce qu'il n'y a pas que du politique dans les CCAT. Et d'ailleurs, ça a été dit très rapidement par les. Alors, les CCAT, ce sont les comités d'action qui se sont constitués, dont le FLNKS, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui regroupe, parce qu'en plus, si vous voulez, il n'y a que 50 000 Kanak, ils ont le FLNKS, avec dedans peut-être une trentaine de partis politiques. C'est assez compliqué, quand même, cette affaire.
Voilà, mais ils arrivaient à être à peu près regroupés.
Voilà.
Et c'est les autres qui ont mis l'huile sur le feu. Donc moi, je suis d'accord, il faut balancer.
C'est-à-dire que les autres, c'est des jeunes, mais il y a aussi beaucoup, quand même, de violence d'opportunité, aussi, dedans. Il n'y a pas que des gens motivés politiquement.
Voilà. Bien sûr.
C'est quand même une réalité
comme à chaque
aussi.
Fois qu'il peut y avoir ce genre de débordement, c'est sûr. Mais moi, je pense quand même qu'il y a une façon de dire les choses à un moment précis, et je pense que monsieur Darmanin, et c'est pas la première fois de toute façon, il est accoutumier du fait, il jette de l'huile sur le feu, et donc en même temps, à un moment donné, là maintenant le président de la République est obligé aussi d'y aller. Moi je pense que quand on est ministre, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit avoir une certaine diplomatie, on doit aussi savoir comment, quoi dire, à quel moment, face à qui. Et je pense que dans la situation actuelle, moi, les paroles de M. Darmanin, elles étaient totalement déplacées.
Alors vous, Thibaut Casal, ce que j'en tiens souvent, de, surtout de ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème de timing, aussi bien pour la réforme, c'était pas le moment de la faire.
Bah oui.
Et ce qu'a dit.
Et aussi pour le troisième. Et puis aussi le troisième référendum, parce que ça, si on remonte aussi, et ça remonte pas très loin, mais pendant le Covid, faire ça durant le Covid. Ou même son propre Premier ministre ou ancien Premier ministre, parce que je ne sais plus si à ce moment-là il était encore ou il ne l'était plus, Édouard Philippe ne lui disait de ne pas le faire. Mais après, c'est comme tout, Emmanuel Macron il écoute que lui, il décide tout seul et donc il finit toujours par, par faire ce genre de choses. Moi je trouve, et d'ailleurs pour le coup, moi qui suis j'ai jamais caché, je suis de gauche et pour le coup Édouard Philippe est quelqu'un qui, sur la situation en Nouvelle-Calédonie, à une politique qui, moi, je trouve très intéressante. Et je pense d'ailleurs que le gouvernement aurait peut-être dû essayer de voir avec lui pour essayer de discuter avec, toutes les forces en présence en Nouvelle-Calédonie pour essayer de faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas et au contraire qu'on reparte vers une situation de paix.
Personnellement, le mandater pour faire une démarche.
Oui, moi je pense que ça aurait été intéressant parce qu'il connaît la situation, il est apprécié par les autres.
Il a été longtemps Premier ministre.
Ouais, voilà, non mais c'est moi je trouve que ça aurait été intéressant et en plus, pour le coup, j'aurais pu dire Jean-Marc Ayrault, j'aurais pu dire Lionel Jospin. Bon, je fais en plus l'effort de dire que Édouard Philippe, qui est de la même couleur politique que le président de la République, pourrait très bien le faire.
Non, ça, c'est, je suis plutôt d'accord, ce serait plutôt une bonne idée.
Attendez de savoir ce qu'il y a dans la mission.
Voilà.
Oui.
Pardon.
Après, à mon avis, il ne le fera pas pour des raisons politiques.
Voilà. Oui, exactement.
Enfin, plutôt des raisons humaines. Je crois qu'en fait, il ne peut pas s'encadrer. Quoi,
oui, oui,
tout simplement.
C'est clairement ça.
En revanche,
il a pas envie de le voir en 2020.
Sur le troisième référendum, on peut dire que c'était une erreur, mais on peut dire aussi que c'est peut-être la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de vouloir provoquer le choc pour s'assurer que ça recommencera pas, en fait, qu'il y aura pas de nouveau référendum. Moi, je pense qu'il a fait exprès. J'aurais fait stratégiquement, c'est pas bête. Parce que là, maintenant, en fait, ils sont coincés.
Les indépendantistes.
Non, mais c'est le bordel, mais ils sont coincés. C'est
oui,
fini. Ils ont perdu la partie. C'est échec et mat.
Et oui, parce que normalement, on refait pas de référendum.
Sauf que,
exactement.
Sauf que le problème, c'est que tant qu'on laisse l'opportunité de remettre en cause le résultat du référendum, ça amène aussi ce qui se passe là. On aurait tenu un référendum dans de très bonnes conditions, je pense vraiment que oui, non, mais c'est justement pour ça que je pense que si on avait tenu ce référendum dans de très bonnes conditions, on aurait eu le même résultat. Par contre, on n'aurait pas eu des gens qui auraient pu s'appeler.
Le problème, c'est
voilà,
que
il faut rendre le vote.
Non, mais là, je suis d'accord avec vous, mais dans toutes les affaires comme ça. Tous les précédents de référendums d'autodétermination, plus ou moins contestés, etc., dans le monde. Bah, on pourrait penser récemment en Europe, on a eu la Catalogne, l'Écosse, etc. Pour les indépendantistes, si vous voulez, quand ils perdent, ils voudront toujours en refaire un. C'est comme ça. Oui. Donc il y a un moment, après, on ne s'arrête plus. Quoi. Oui, on peut en faire 500 quoi, des référendums.
C'est comme la déclaration de Darmanin.
Et s'ils
ne
gagnent pas, c'est parce que parce qu'en fait, la réalité de ces gens-là, c'est un petit peu comme certains en Catalogne qui étaient les plus radicaux. Ils voulaient qu'il n'y ait que les Catalans qui votent. Mais qu'est-ce qu'on allait faire? Un test génétique pour savoir si les mecs ils étaient de Castille ou... Et là, c'est ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent qu'il n'y ait que les Kanaks qui votent. Parce qu'ils considèrent, dans la logique en fait, de l'autodétermination depuis 1945 et depuis la décolonisation, c'est comme ça que ça marche.
Et voilà.
L'Algérie, c'était ça. Par exemple, les pieds noirs, ils n'ont pas eu leur mot à dire.
Non.
Y a eu d'autres cas. Hong Kong, etc. Bon, et je pense que là, c'est ce que veulent les Kanaks. Mais le problème, c'est que nous, on n'acceptera pas.
Alors, vous êtes, pour vous, il est acquis, Gabriel Robin, qu'Emmanuel Macron ne proposera pas, n'annoncera pas de nouveau référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Je serais surpris. D'ailleurs, j'ai été très étonné que c'est Marine Le Pen, je crois, qui a...
Oui.
Qui, dans sa volonté...
Alors que ses parlementaires ont voté
constitutionnelle.
Mais c'est Marine Le Pen, dans sa volonté, parfois... de prendre à contre-pied, d'être au centre, etc.
Elle fait pas attention.
Elle va beaucoup plus, elle va se retrouver, si vous voulez, parfois à la gauche d'Emmanuel Macron. Quoi. Et là, sur ce cas, c'est ça. C'est tout de même étonnant. Quoi.
Françoise, d'abord, pour vous, il n'y aura pas de nouveau référendum?
Moi, je partage assez le fait qu'il n'y aura pas de nouveau référendum, que ça a été fait à un moment... Où, alors c'est vrai qu'on pataugeait quand même, parce que si on regarde les élections municipales, c'est pareil, on y allait.
Il y a Sonia Backès qui a perdu aussi.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, dont ce référendum. Bon, mais c'est vrai que je ne vois pas dans la feuille de route et la logique de refaire un référendum aussi rapidement. Ce serait vraiment peut-être même contre-productif, parce que c'est se renier soi-même. Référendum y ait une légitimité un peu ratée, oui, vous avez raison.
Après, ça crée un précédent,
parce
la Corse.
Voilà. Bon, peut-être, ça n'a pas été fait dans des bonnes conditions. Si on le remet en question, surtout sur ce territoire, où tout, pardon, est déjà prétexte à rediscuter pour des bonnes raisons. Hein, quand je dis ça,
c'est culturel aussi, la culture, ce qu'ils appellent la palabre.
Voilà.
C'est...
Donc là,
J'aimerais quand même dire une chose.
On avait précisé.
Pour finir, niveau politique en France, j'ai trouvé qu'il y avait eu. Qu'on venait de parler de Marine Le Pen, mais il faudrait parler aussi de l'attitude d'une partie de la gauche, pas de toute d'ailleurs, parce que quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, sur ces questions-là, je le trouve raisonnable, et plutôt bien même. Sur les questions de politique étrangère, je le trouve même globalement très bien. Sur le reste, moins le cas. En revanche, sur les questions de politique étrangère, pour moi, il est assez clair. Et quand vous comparez avec ce que fait la France insoumise, ou même parfois les écolos, sur ces questions-là, le feu qu'ils ont agité, et même une forme de trahison vis-à-vis de leur propre État, en accusant la France d'être un État colonial, en le disant comme ça, en parlant de leurs propres concitoyens, les Caldoches, comme étant des colons, ou des Français qui s'installent là-bas, qui sont pour des fonctionnaires
de
colons. Mais je ne sais pas si on se rend compte, c'est extrêmement grave. Ça leur mettait en plus une cible dans le dos, quoi, sur place.
Oui.
C'est de la trahison, moi, je considère.
Surtout quand on voit qu'au Sénat, quand même, dans le groupe communiste, il y a un Kanak, si je ne m'abuse.
Oui, mais non.
Oui, mais il a pris la parole.
Voilà. Et ils ont changé le nom du groupe pour pouvoir l'intégrer. Donc, on a complètement dévissé sur certaines bases.
Mais sous l'influence, par exemple, de personnes, on le voit, qui sont dans ce logiciel-là, des coloniales. Cette fille là, je sais plus comment elle s'appelle, Rima Hassan par exemple.
Rima Hassan de la France.
Elle a parlé de la Nouvelle-Calédonie, si vous voulez. Elle a lié ça au Sahara occidental, à la Palestine. Enfin, c'est vraiment tout est bon en fait pour détruire les nations. Quoi.
Oui,
c'est...
Alors, je voudrais entendre Thibaut Casal sur les deux sujets que vous venez d'aborder parce qu'il soutient la NUPES jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que vous répondez au point soulevé
pas d'attaque contre la NUPES.
C'est d'ailleurs ça ce qui est intéressant avec de toute façon la NUPES. C'est que, notamment sur les questions internationales, et de toute façon on le voit bien au niveau européen, à l'Assemblée nationale, la NUPES en tant que telle existe quand même toujours parce que les groupes parlementaires travaillent toujours ensemble, etc. Ça a échappé à personne qu'à l'élection européenne, il y a quatre listes qui représentent les quatre listes de la NUPES. Donc on voit bien que déjà sur l'Europe, il y a des positions différentes. Sur les questions internationales, il y a aussi des points de vue différents. Moi, pour ce qui est de Rima Hassan, il n'y a aucune logique à mettre la Nouvelle-Calédonie et la Palestine sur le même point de vue. Après, c'est sûr qu'en ce moment, on condense tout, on parle de tout en même temps, ce qui fait que on s'y perd. Ce qui se passe en Palestine est très grave, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et la France n'a pas la même part de responsabilité sur l'un, sur l'autre, etc. On peut pas tout mélanger. Donc voilà. Mais sur ce qui est de la Nouvelle-Calédonie et sur ce qui a été dit, moi, à aucun moment, et je tiens à le préciser par rapport à quand même ce qui a été dit, etc., à aucun moment, j'ai dit qu'il ne fallait pas que les Français présents sur le territoire depuis 1998 ne puissent pas voter, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître assez logique que les personnes présentes là-bas, des personnes nées là-bas, en plus, moi, je suis né en 1998, donc ça me parle dans un sens, et c'est de dire qu'elles puissent voter. Bon, ça, moi, j'ai aucun problème, j'aurais aucun problème à le dire. Je n'ai pas non plus dit qu'il fallait un référendum maintenant sur cette question-là. Bien sûr que non. J'ai seulement dit que le dernier référendum a été fait n'importe comment, quand. Et ensuite, je pense que la question pourrait se poser de refaire un référendum, pas maintenant. Non. Il faudrait se poser la question, ou au moins voir, en tout cas... Bon, moi,
ce qu'a dit Marine Le Pen
là,
dans 40 ans.
Mais dans 40 ans, ça sert complètement à rien. Ça, c'est juste pour dire, moi, j'ai dit qu'il fallait un référendum.
Mais c'était au moment des accords de Nouméa, c'est ce qui avait été décidé, en fait.
Dans 40 ans, elle sera peut-être déjà morte, Marine Le Pen.
Non, mais elle reprend l'agenda des accords de Nouméa, en fait.
Oui, donc, ce qui fait que, je sais pas quand est-ce que serait la bonne date, etc. Je suis pas spécialiste de la question, je suis pas diplomate, je suis encore moins au gouvernement. Donc, voilà. Mais j'espère que que ce soit cette mission ou que ce soit dans les négociations qu'il va y avoir, il va y avoir une porte de sortie pour que la situation soit le plus calme possible. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est, ça, je tiens quand même à préciser parce que de toute façon, mais c'est normal, à chaque fois ça reviendra, c'est pas parce qu'on a soutenu la NUPES, c'est pas parce qu'on soutient la NUPES, c'est pas parce qu'on est dans un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle les écologistes NUPES qu'on soutient ce que dit Jean-Luc Mélenchon forcément tout le temps, à chaque moment.
Oui, de toute façon, dans tous les partis, vous avez des...
Je pense que les élections européennes, on y verra peut-être un peu plus clair dans tout ça.
Mais là, il est vrai que sur les questions quand même de politique étrangère, quand on voit la différence entre Raphaël Glucksmann et Manon Aubry, c'est impressionnant, quoi. C'est le jour et la nuit.
Bien sûr. Même si... Même s'il faut quand même écouter ce que disent chacun et chacune sur ces questions-là. Parce que, par exemple, M. Glucksmann a mis très longtemps, que ce soit dans ses votes ou dans ses prises de position, à parler de ce qui se passait en Palestine. Il a été plus que prudent, il a été timoré. Et bon, maintenant, je peux lui reconnaître qu'il commence quand même à avoir une position qui, à gauche, fait quand même à peu près unanimité.
Écoutez, on va clore ce premier débat dans l'attente de ce que pourra annoncer Emmanuel Macron, notamment concernant cette fameuse mission et la composition de ceux qui vont devoir la mener sur place. On clôt ce premier débat. Courte virgule musicale maintenant avant de vous retrouver dans une vingtaine de secondes autour d'un deuxième sujet à la une de l'actualité nationale. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours avec Françoise Laborde, Thibaut Casal et Gabriel Robin, à qui je propose maintenant de débattre d'un sujet une nouvelle fois sur le devant de l'actualité, les grèves dans les transports parisiens. Mardi, ils ont été fortement perturbés en Île-de-France en raison d'un mouvement social d'agents de la SNCF qui faisait suite à un appel lancé par plusieurs syndicats. Une partie du personnel des aéroports d'Orly et Roissy s'est également mobilisée. En cause, dans les deux cas, un montant de prime journalière jugé insuffisant pendant la période des Jeux Olympiques. Les syndicats des aéroports parisiens réclament même des revalorisations salariales et un plan d'embauche pour faire face à l'événement. Est-ce que vous considérez que les revendications des agents de la SNCF et du personnel des aéroports de Paris sont légitimes? Ou y voyez-vous plutôt ce que certains désignent comme un chantage social pour profiter de la situation à 2 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris? Thibaut Casal.
Alors sur cette question, oui, pour moi c'est légitime, les revendications sont légitimes et le droit de grève de toute façon est un droit en France, ils ont le droit de faire grève et leur demande de revalorisation salariale dans cette période et face à cet événement est légitime. Ensuite, de toute façon, ça c'est le débat. À chaque fois qu'il y a une grève en France, de toute façon, on a à peu près ce débat-là. À chaque fois qu'il y a un événement important ici en France, enfin, je me rappelle en 2016, quand il y avait l'Euro 2016, on avait les mêmes questions. Et comme d'habitude, vous avez la droite conservatrice qui va vous dire les grévistes tiennent le pays en otage, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. De l'autre côté, celles et ceux qui, depuis le début, se battent pour le droit des travailleurs et des travailleuses, eux disent bien que ces revendications sont légitimes, donc à gauche. Moi, ça me pose pas de souci de voir que ces travailleurs, ces travailleuses se mobilisent pour avoir des revalorisations salariales, ou dans d'autres secteurs, certains les ont eues pour cette période des JO. Donc pourquoi eux ne l'auraient pas, alors qu'on sait très bien que la SNCF va être mise... ils vont avoir un été, déjà que l'été pour la SNCF, c'est un moment... très important. Là, ça va être une grosse mobilisation pour ces travailleurs et ces travailleuses. Et moi, je vais même aller plus loin. Je pense que le timing est assez bon, parce que pour l'instant, en attendant, ils le font avant, déjà.
Oui,
ils
on a 2 mois à peu près de l'ouverture.
Voilà. Donc, ils laissent quand même, quoi qu'il arrive, la balle dans le camp du gouvernement. Vous pouvez venir discuter. Nous, on souhaite une revalorisation salariale. Vous pouvez venir discuter avec nous. Tout simplement dire que le dialogue social avec Emmanuel Macron aussi, on a l'impression que quoi qu'il arrive, il faut passer par la force. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a des discussions entre les syndicats et le gouvernement, ça se finit où les syndicats claquent la porte et au final leur disent « bon, on va faire des grèves, etc. » Donc, je pense que montrer à Emmanuel Macron un petit rapport de force, c'est plutôt une bonne chose sur cette question.
Gabriel Robin, je ne suis pas sûr que vous soyez tout à fait sur la même longueur d'onde que Thibault Casal.
Je pense que le dialogue social en France est en panne. Ouais. Parce que quand on doit faire des...
Vous n'êtes pas le seul.
Non, mais quand il y a des grèves... combien il y a eu de grèves de la SNCF lors des 20 dernières années? Je ne peux même pas les compter. Est-ce que vous avez des grèves nationales, des grèves régionales? Récemment, là, je suis parti en week-end à Gruissant, là, pendant le week-end de 4 jours, il y avait une grève déguisée.
Eh ben oui, mais celui-là,
c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout fermé. Il n'y avait plus de gare. Qui était, la gare de Narbonne était entièrement fermée. Et on nous a dit... alors moi, quelqu'un devait me rejoindre par le train là-bas, au chalet de Gruissant, juste pour 4 jours. Et on lui a dit, nous avons fermé les gares du Languedoc pour faire des travaux. Alors, en réalité, c'était une grève. Donc une grève cachée. Donc vous avez aussi ça.
Mais là, c'est pas la question là, sur, bah, si, c'est un sur peu la, ce qui se passe là.
C'est un peu la question, parce que le problème, c'est que les syndicats de la SNCF n'ont pour seul moyen de pression que la grève. Je ne sais pas comment est la direction. Elle est peut-être défaillante en la matière.
Quand on parle de dialogue social, ça concerne aussi les directions exactement. Des services publics en question.
Elle est peut-être défaillante en la matière, mais le résultat, en tout cas, qui est sous les yeux de l'usager, qui aussi contribue quand même par ses impôts au bon fonctionnement de la SNCF, est que tous les 4-5 points, on va mettre cette période d'ici là, il est susceptible en fait de ne pas avoir de train, d'être coincé dans une ville qui n'est pas la sienne lors d'un déplacement professionnel, de ne pas pouvoir partir en congé.
Ou de ne pas pouvoir revenir.
Voilà, ou de ne pas pouvoir revenir. Ouais. Pour les Français, c'est littéralement insupportable.
Bah,
c'est quelque chose, en fait, qui est presque unique au monde, d'avoir autant de grèves. Et ça concerne la SNCF. Bon, alors, c'est vrai que la SNCF, c'est particulièrement aigu. C'est chez eux, c'est l'un des secteurs où il y a le plus de grèves.
On pointe du doigt.
Est-ce qu'ils sont les plus mal payés des salariés français ? Loin de là. Est-ce qu'ils sont ceux qui ont le moins d'avantages ?
Ça dépend.
Loin de là aussi. Il y a quand même un certain nombre d'avantages.
Oui, non, mais je ne parle pas spécialement sur les avantages, mais je parle sur le salaire. Le salaire, cheminots, ça dépend vraiment de ce que vous faites aussi.
Le salaire n'est pas mauvais. J'avais regardé, par exemple, un contrôleur, c'est en moyenne 4000 euros net.
Oui, contrôleur, mais il y a tous ceux qui s'occupent de la voirie.
C'est plus qu'un policier, c'est plus qu'un policier national.
Net, c'est, même pas
c'est plus qu'un gendarme.
C'est plus qu'un enseignant.
C'est plus qu'un enseignant. Aussi, donc, c'est pas non plus, si vous voulez.
Oui, mais d'accord. Mais
et
si
le
on prend,
contrôleur, ça ne demande pas une qualification, par exemple, comparable à celle de professeur. Moi, je considère.
Alors, c'est pas parce que les enseignants sont pas assez bien payés que il faut
d'accord.
Tomber sur
mais
le fait que les contrôleurs soient plus payés.
Je suis entièrement d'accord.
La logique, ce serait juste qu'en fait les enseignants soient mieux payés.
Mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que pour mieux payer les gens, il faut qu'il y ait une économie qui fonctionne.
Oui, ou il faut aller chercher de l'argent
l'écart,
aussi et faire des lois. Pour
l'écart
aller dans ce
de pouvoir d'achat entre, par exemple, les États-Unis aujourd'hui et la France n'a jamais été aussi élevé que depuis 1945. C'est-à-dire que pour les Américains, venir en France, c'est open bar, c'est comme pour nous quasiment aller en Thaïlande. On a des salaires qui sont ridicules. Est-ce que ce système, en fait, fiscal, de blocage, etc., est de nature à redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Moi, je suis persuadé que non. Voilà, je vous le dis, c'est sûr que non.
Peut-être que l'argent, il faut aussi aller le chercher.
Faut
aussi aller le chercher, si. Dans le sens où, quand on avait l'ISF qu'on a enlevé, ça fait des rentrées d'argent en moins.
C'est pas
quand
ça
on
va
ne va pas,
quand
on ne va pas faire de taxation robot, typiquement aussi, aujourd'hui, les robots, ça travaille. Un robot, il travaille, il crée de la richesse. Pourquoi on ne le taxe pas ?
Non, mais c'est pas
pourquoi
la taxe
on
qui
ira
crée
pas
de l'argent. La taxe,
mais
ça ne crée pas de l'argent.
Sauf qu'en attendant, avec cette taxe.
Non, mais il faut pouvoir
après,
taxer
ensuite,
quelque chose.
Ensuite, une fois qu'on a récolté cet argent-là, oui, on peut le redistribuer. Et on pourrait même, par exemple, le redistribuer quelque chose pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises. Ça s'appelle, par exemple, le revenu universel d'existence. Ça pourrait être une sortie.
Ça, c'est le revenu d'appauvrissement universel.
Alors, franchement, vous allez encore vous
retrouver
au centre.
D'ailleurs, vous êtes au centre. Je suis bien placée. Autour de cette table. Personne ne l'imagine pas, mais je suis bien entre ces deux messieurs. Non, mais là, quand même, je suis assez... je suis capable d'être dure. Parce qu'en général, je fais attention au vocabulaire que j'utilise. Mais la prise d'otage, on sait ce que c'est. Mais là, limite, je suis capable d'employer ce terme. Parce qu'en effet, je suis désolée. Je vais l'expliciter. Mais je suis désolée. Il est en effet vrai qu'on ne peut pas dire aux personnes, à chaque vacances... que ouais. peut-être ils vont être avec leurs valises sur le bord du quai. On ne peut pas dire qu'il faut utiliser les transports en commun, qu'on laisse sa petite voiture à la maison, d'ailleurs qu'on n'a pas, parce que tout le monde n'a plus les moyens d'avoir une voiture, hein, parce que c'est cher. Si on se rapporte au prix d'une voiture il y a 30 ans, et par rapport... Donc aujourd'hui, on a quand même ce problème. Après... Je suis quand même capable de creuser un peu et de dire peut-être qu'il n'y a pas eu une anticipation suffisante. Et là, évidemment, on entend les discours. L'entreprise dit « Oui, mais le gouvernement ne nous a pas dit assez tôt et nous, pour faire des plannings et des trucs et des machins, voilà. » Donc, on a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Il y a des gens qui vont être sans vacances cet été, qu'il faudra décaler, etc. Donc ça, je l'entends. J'entends aussi que... certaines personnes, donc à la SNCF, voient des postes supprimés, parce qu'il y a eu quand même une petite vague de suppression de postes. Et là, on va appeler des renforts, des intérimaires, pour les remplacer. Donc, je comprends qu'il l'est en travers. Donc, vous voyez,
Donc, il y a eu la ligne Perpignan-Orangis, notamment.
Voilà. Donc là, c'est quand même un peu énorme, et c'est pour ça que j'atténue ma prise d'otage. Voilà. Après, c'est vrai que les syndicats, ils y vont, quoi. Ils ne vont pas se priver. Surtout que la RATP, il y a eu des augmentations de salaires qui sont justifiées, comme vous disiez tout à l'heure sur l'autre sujet, on n'est pas toujours dans le bon timing. L'augmentation de salaire de la RATP, je ne vais pas la remettre en question. Ça serait très malvenu. Mais je la remets en question à l'instant T, parce que là, c'est un grand événement qui nécessitait, à mon avis, des primes. Comme on va voir les éboueurs, la police, la sécurité, etc.
Ils ne font pas le même résultat aussi. C'est-à-dire que le résultat de la RATP, le résultat net de la RATP, n'est pas le résultat net de la SNCF.
Donc, ça rapporte plus d'argent, la RATP. Donc la SNCF se retrouve avec peut-être d'autres personnes qui ont eu des augmentations de salaire et qu'eux, ils se disent, nous, on est une entreprise qui doit être gérée autrement. Et on ne fait pas le débat aujourd'hui, du autrement. Donc j'espère, franchement, qu'il va y avoir du dialogue efficace et qu'il y aura une trêve, on peut l'appeler la trêve olympique.
Alors oui, ce terme-là qui revient régulièrement depuis quelques mois, qui va revenir de plus en plus souvent.
Plus on va approcher des JO.
On ne sera pas certain que tout va bien se passer. Alors est-ce que vous croyez que les syndicats pourraient être jusqu'au boutiste au point de refuser ce principe d'une trêve olympique au moment des Jeux. Et aussi, l'autre question qu'on peut se poser, de quelle marge de manœuvre dispose le gouvernement, sachant que l'échéance qui approche, le gouvernement joue très gros. Il faut que ça se passe bien, les Jeux olympiques en France.
Il faut que le gouvernement se tienne à l'écart, pour l'instant, de ces questions-là, et qu'il laisse ses salariés discuter avec leur direction. Le dialogue social, c'est ça. C'est pas... Il n'y a qu'en France qu'on voit le politique à chaque fois... S'immiscer dans des négociations
dans la
de branches.
C'est quand même l'État quand même.
Pour l'heure, il faut laisser. Pour l'heure, c'est pas à l'État d'intervenir.
Il est vrai qu'il y a une direction qui va.
Il y a d'abord via la SNCF en fait sa direction, son comité d'administration qui doit discuter avec ses salariés et voir ce qu'ils sont capables de faire fonction de leurs résultats, c'est chiffré, tout ça. Moi, je les connais pas les résultats de la SNCF. Est-ce qu'ils ont de quoi distribuer, etc. La RATP, c'est sûr que oui. Parce que la RATP a de bons résultats économiques. La SNCF, en ce moment, il y a une difficulté.
Mais c'est le chat qui se mord la queue. C'est ça. Pardon, parce que prendre le train, moi, en ce moment, je préfère prendre la voiture.
Oui. Mais la SNCF...
C'est horriblement cher.
Le problème, c'est que...
C'est
alors,
cher,
déjà,
et puis, cher, si t'es au bord du quai.
C'est ça, c'est cher.
Et en plus, t'as un mauvais service.
C'est cher. Le service, les rames sont de moins en moins confortables. Ça, c'est la plupart des usagers le remarquent. C'est-à-dire qu'on renonce quand même au confort, et quand on renonce au confort, ça veut dire qu'on baisse, que le niveau de vie global baisse. Vous avez aussi cette difficulté entre les différents opérateurs.
Oui, j'allais dire l'ouverture à d'autres entreprises.
Parce que y a...
ça marche pas du tout.
Alors, c'est obligatoire, mais ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que vous avez Ouigo, vous avez aussi les trains régionaux, tout ce qui est TER, c'est pas la même gestion. Et ça provoque parfois des trucs de fou. C'est-à-dire que vous allez prendre un TGV qui va vous amener, par exemple, si vous faites Bordeaux jusqu'à Narbonne, un trajet théorique.
Chez nous, essayons.
Là, tout ça, c'est du TGV. Celui-là, il est très rarement retardé, en réalité. Celui-là, il fonctionne très, très bien, cette ligne-là. Vous avez peu d'annulations, peu de retards. C'est max 5-10 minutes de retard. Ça fonctionne très, très bien. Par contre, dès que vous arrivez à Narbonne et qu'il faut prendre un TER, par exemple, pour aller à Béziers ou Perpignan, si vous êtes obligé de le prendre, parce qu'il y a parfois il y a moins de périodicité de TGV, bah là, vous avez une chance sur deux d'avoir une demi-heure de retard, que le truc il soit annulé. C'est tout le temps. Pardon, je le fais assez souvent, donc je le connais. Celui-là, il est tout le temps. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à Narbonne, la partie Languedoc, c'est pourri. Donc, il y a des endroits en France comme ça qui sont vérolés avec un niveau de service qui n'est pas du tout bon. L'Ouest est très bien desservi. Sauf la Bretagne. La Bretagne, c'est hyper mal desservi, par exemple. Donc, la SNCF n'a pas les moyens, en fait, d'agir là-dessus, et c'est sur ça qu'elle devrait agir le plus, c'est-à-dire au service de l'usager, avec un... C'est parce que...
Bah, il faudrait celui aussi peut-être y mettre plus de moyens. De moyens dans le ferroviaire. Comme le font certains pays, comme l'Espagne, l'Allemagne, qui sont pourtant des pays dans lesquels le ferroviaire, si on prend il y a 20 ans, était dans un état beaucoup plus catastrophique que le nôtre.
Je suis d'accord.
Sauf que nous, on n'a pas arrêté de laisser faire,
la France,
de laisser tomber.
C'était un modèle pour le
Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça se passe
c'est
mieux en Espagne, ça se passe mieux en Allemagne.
Ça se passe mieux en Espagne.
Et que ce soit même au niveau tarifaire.
Là, il y a une erreur de Macron aussi avec ses bus.
Ça c'était une bonne idée au début, qui fonctionne pas très bien. En plus, c'était une bonne idée au début.
Il y a beaucoup de problèmes. Hein,
en étant honnête, les bus Macron, les deux premières années,
là pour le coup des spéculateurs.
C'était vrai. Dans un premier temps, c'était assez bon, c'était assez confortable, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Les prix ont fait monter.
À l'écologie, à tout ça. Donc
c'est dangereux. J'ai une amie qui a pris un Flixbus là parce que en fait, elle avait un problème de passeport au retour de Lisbonne. Donc voilà. Et me disait, c'est dangereux, c'est pourri, c'est pas si donné que ça.
Non, c'est de plus en plus cher.
En fait, c'est pas très loin c'était... des tarifs du train. Donc c'est vrai qu'il y a un problème sur les transports, mais après, il faut aussi que la SNCF et sa direction s'y retrouvent, c'est-à-dire qu'il faut que les lignes soient rentables. Donc il faut trouver un moyen de rentabiliser les lignes, de les rendre régulières, que l'usager... il trouve son compte. C'est difficile,
hein. Prendre le train.
Mais déjà, pour plus avoir. Parce que la peur de prendre le train, en étant très honnête, moi, la plupart des personnes que je connais qui ont peur de prendre le train, c'est pas tellement qu'ils ont peur des retards, c'est pas tellement qu'ils ont peur d'être mal assis, c'est surtout qu'ils ont peur tout simplement du prix. Et que quand le trajet Toulouse-Paris
parfois,
est moins cher en avion qu'il ne l'est en train. Ça arrive, mais c'est très fréquent.
Mais si on veut réellement faire une politique
écologique en allant vers le ferroviaire, il faut que le train soit plus attractif que l'avion.
Mais
tout le monde est d'accord, tout le monde dit oui, et c'est pas le cas.
Non, mais là, je vais abonder dans son sens parce que je suis tous les 15 jours à Paris, 3 jours, puisque je travaille 3 jours tous les 15 jours à Paris. Moi, je prends le train, mais c'est pour des raisons de confort. Parce qu'en fait, j'aime bien arriver à Montparnasse, j'ai mes bureaux à Montparnasse, et comme j'habite pas loin de la gare, j'ai pas les...
On arrive dans Paris.
Et puis, si vous voulez, dans le train, on débarque, on s'assoit. L'avion, parfois, il m'arrive de le prendre quand je suis plus pressé. Mais l'avion, ça vous fait débarquer à Orly. L'un dans l'autre, c'est pas beaucoup plus court. Ça ne fait gagner qu'une heure. Et quand on aura le TGV Toulouse-Bordeaux, ça fera pas gagner de temps. Et en plus, ça fait perdre de l'argent parce que il y a soit le taxi, soit le ticket qui est beaucoup plus cher, quand même, qui est 20 euros.
Tu n'as pas le temps de bosser. Moi qui vais de plus en plus souvent à Paris en train, puisque maintenant, j'arrive donc à gérer les prix des trains, à choisir un train pas trop cher, etc. Mais je suis au regret de vous dire que quand j'organise des conférences ou des choses comme ça, la dernière fois j'organisais une conférence le vendredi après-midi à Toulouse, je suis quand même partie la veille. M'en a pris, parce que en grasse campagne, une heure.
Le
retour, pas dans la même campagne, un peu plus loin, trois quarts d'heure.
Vous avez pris quel train?
Les trains...
Celui qui arrive au stade, il sort.
Non, c'est le qui fait partie TGV, mais en ce moment, de Toulouse à Bordeaux...
En plus, dès que c'est l'été, il y a plus de perturbations, parce qu'il y a, le gibier, en fait. Ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le croit.
Du coup, c'est vrai qu'entre les retards justifiés ne sont plus appréciés. C'est jamais apprécié un retard de la population parce qu'il y a tous les retards qui vous gonflent. Pardon, excusez-moi cette expression.
Voilà. Les sièges, ils sont quand même...
Et donc, à un moment...
Ils tapent, quoi.
Est-ce qu'ils vont être jusque-boutistes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que l'image de la France est quand même, bon voilà, il y a des gens qui sont
foutus. Ah oui, ça va être une vitrine pour
l'Union. Non mais là, je vais vous dire ce qui va se passer, la SNCF va lâcher. Quoi.
Mais c'est notamment pour ça que moi je pense qu'il faut que l'État intervienne. Et pour notamment envoyer un message, pour envoyer notamment un message à ces personnes qui font grève et de dire on vous écoute. Et si on veut en plus qu'il y ait cette trêve hivernale et qu'on ne veut pas que ces personnes soient jusqu'au boutiste, en fait c'est un peu comme sur plein de dossiers sur
il faut
non seulement peut-être... pas forcément lâcher sur tout, mais faut discuter et surtout faut aussi essayer de faire des compromis. Et malheureusement, bah, Emmanuel Macron depuis 2017, des compromis, il n'en fait pas.
Dans
un premier temps, Emmanuel Macron doit laisser quand même la main à la direction de la SNCF.
Quand même quelque chose qui moi me laisse perplexe.
C'est Macron qui a les
sous. Et qui me fait pencher vers une petite note pessimiste. Rappelez-vous le volcan là qui a un nom à coucher dehors.
Ah oui.
Voilà, merci. En Suède, là,
en Islande,
qui a arrosé tout le monde et où les avions, là, c'était
détourné, ils pouvaient pas. Voilà.
Oui,
et rappelez-vous qu'à cette époque-là, en France, nous avions une grève de la SNCF.
Ah oui.
Eh bien, ils ne l'ont pas arrêté.
Non.
Ils ne l'ont pas arrêté.
Ah, c'est vrai que parfois, ils sont quand même gros.
Alors moi, je dis joker. Parce que voilà.
Non, ah mais il y a des parce que je sais que vous êtes passionné de sport en plus. D'ailleurs, on a trois passionnés de sport à la table.
Oui. Bah, justement, 2010, ça me rappelle moi qui suis fan du FC Barcelone. Ils n'avaient pas pu prendre l'avion et du coup, ils avaient été obligés de faire en bus Barcelone-Milan pour aller là-bas et donc notamment un état de fatigue qui n'était pas le même et qui avait fait qu'ils avaient perdu d'ailleurs. Mais moi, je veux que la fête du sport, les JO, ça devrait être cette fête du sport. Et donc, il faut que ce soit possible. Mais bien que je sois un amoureux du sport, c'est pas pour autant que parce qu'il y a une grande compétition internationale, il faut mettre de côté tout ce qui se passe mal. Si on veut éviter, moi je pense qu'il faut aussi que les forces en présence, que ce soit la direction de la SNCF, que ce soit l'État, comprennent que si on veut éviter qu'ils soient jusqu'au boutiste, il faut aussi aller dans leur sens sur quelque chose. Parce que sinon... Parce qu'ils ne veulent pas être jusqu'au boutiste, à mon avis. Ils savent très bien que la SNCF, si ces grévistes vont être jusqu'au boutiste, ça va se retourner contre eux. Et l'opinion publique va se retourner contre eux. Et donc, je ne pense pas qu'ils ont envie de ça. Et je ne pense pas qu'ils ont envie de ça, très, très honnêtement. Le but de faire grève, c'est parce qu'on a des revendications, c'est parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas simplement « j'ai envie de faire chier ». Ce n'est pas ça, quoi. Donc, il faut quand même l'avoir à l'esprit.
Alors, je vais faire un petit parallèle avec une autre période... Il y avait des jeux à Paris, et faire un peu de publicité, puisque le hors-série de Valeurs Actuelles sera consacré à la Belle Époque. Et donc, il va y avoir tout un grand article avec Arnaud Dutertre, qui est spécialisé sur la question qu'a fait le dictionnaire amoureux de la Belle Époque chez Gallimard, sur...
Benoît
Dutertre.
Oui, parce que là...
c'est le rédacteur en chef qui s'appelle Arnaud Folk, donc j'ai mélangé...
Benoît Dutertre.
Sur la Belle Époque, et il a fait le dictionnaire amoureux de la Belle Époque, qui est très très bien d'ailleurs, que je recommande pour ceux qui ont envie de...
C'est un remarquable écrivain en plus.
Voilà, et il consacre un papier à l'exposition universelle de Paris de 1900, où se tenaient en même temps les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques coïncidaient avec les premières expositions universelles, après ça a été modifié, etc. Et l'exposition universelle a fait pour la France de la Belle Époque, a contribué en fait à faire de la France le phare du monde. 1900, c'est une réussite exceptionnelle. Le monde entier applaudit les pavillons français, les réalisations. Là, en 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, alors je ne vais pas faire mon gros réac, mais j'ai quand même un peu plus de doutes sur le succès de l'opération, globalement. Ce n'est pas la même France aussi, on n'a pas la même image dans le monde, on n'a pas la même richesse.
Et puis heureusement, parce que dans les expositions universelles, il y avait aussi tout l'univers colonial, etc. Donc heureusement que ce n'est pas la même France.
Non, mais quand même. Paris, c'était un peu le phare.
Non, mais ce n'est pas le même monde.
Non, oui, bien sûr, mais pour le coup, heureusement pour moi que ça a changé.
Mais il y avait quand même de belles choses.
Aussi.
L'exposition universelle, c'est là qu'on a construit la Tour Eiffel. Bon, ce n'était pas pour celle de 1889. Voilà, c'était pour la précédente. Mais est-ce qu'en 2024, la France va garder son prestige, l'image qu'il a assez dans le monde. Je vous signale quand même qu'il y a eu des événements sportifs ces dernières années qui sont très très mal passés.
Oui, oui.
Il y a eu l'organisation, voilà, finale de la Ligue des Champions avec les fameux supporters anglais de Darmanin.
Et la gestion de Darmanin, ouais.
Qui montre d'ailleurs, qui montrera encore une fois que Gérald Darmanin, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, est un personnage en fait qui a beaucoup de... comment dire, beaucoup d'allant quand il s'exprime à la télévision, qui semble très très dur, qui se hausse sur ses argots, qui joue les gendarmes, etc., de droite dure. Et finalement, dans les résultats concrets de sa politique sécuritaire, bah, moi je ne vois pas qu'il y ait une amélioration. Au contraire, je constate une dégradation à plusieurs niveaux, que ce soit dans le maintien de l'ordre public, dans la délinquance,
la criminalité. Peut-être qu'il faut changer de paradigme,
le droit commun.
Plus forcément une politique sécuritaire.
Non, je pense qu'en fait, lui,
il
fait rien. En fait, il faut arrêter la com et faire vraiment de la sécurité.
On va arrêter là-dessus. Ouais. Donc, c'est dans deux mois.
Olympiques.
On verra bien. Avant de conclure cette émission, vous avez droit à un coup de gueule, un coup de cœur. Alors, très rapide, 30 secondes chacun. Gabriel Robin, très vite.
Un coup de cœur. J'allais vous parler d'Alberto Moravia parce qu'il est réédité aux éditions Bouquin, mais je vais vous parler d'un livre qui est sorti de Jean-Louis Brunon, qui est la Cité des Druides, et qui est vraiment exceptionnel en fait pour bien comprendre la civilisation gauloise.
Donc on le lira. Voilà. Moi j'ai réalisé qu'il y avait 37 listes pour les européennes, donc même si l'Espagne et l'Allemagne font comme nous 33-35, je suis affligée. Parce que 3% ils ne seront pas remboursés et 5% ils n'iront pas au Parlement. Donc si on voit le nombre de listes à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au milieu, etc., c'est affligeant et voilà. C'était mon coup de
Thibaut
gueule.
Casal,
eh ben, mais c'est la démocratie quand même. Hein.
Mon coup de gueule rejoint celui que vous venez de faire. C'est tout simplement le fait qu'à gauche, aujourd'hui, les anciennes de la NUPES, eh ben, il y a 4 listes. Ouais. 4 listes, là, celle qui est le plus haute est à 14%. Une liste unique aurait pu permettre de peut-être challenger le Rassemblement National et de montrer que la gauche unie peut gagner cette élection.
Voilà. Merci à vous trois. C'était le 154e numéro de la mêlée. Merci également à Coraline qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Tous mes remerciements aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de cette émission, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un excellent week-end.